Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui et demain, nous vous proposons deux émissions spéciales sur la sécurité routière en Afrique, enregistrées à Marrakech, au Maroc, à l'occasion de la 4e conférence mondiale sur la sécurité routière qui se tient toute cette semaine. Quelle prévention, réglementation pour sortir de la fatalité des accidents de la route sur le continent africain? Pour rappel, l'Afrique subsaharienne détient près de 4% du parc automobile mondial, mais concentre près de 19% des décès liés aux accidents de la route en 2023. Alors, au-delà des drames humains, cette insécurité routière a aussi un coût économique, jusqu'à 5% du PIB, selon une étude de la Banque africaine de développement. Comment donc bâtir de vraies politiques de sécurité routière pour les États qui soient bien comprises, bien acceptées par les populations? Faut-il miser davantage sur les sanctions, les amendes, ou plutôt sur la prévention, la formation des conducteurs, l'éducation routière aussi dès le plus jeune âge? Comment financer par ailleurs ces campagnes de sécurité routière? Nous allons en parler avec nos invités. Binta Sako, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes représentante du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, hein, l'OMS qui est à l'initiative de cette conférence mondiale accueillie au Maroc. Étienne Kouakou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'Office de sécurité routière de Côte d'Ivoire. Awassar, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la société civile puisque vous êtes présidente de l'ONG sénégalaise LASER, l'Action Sécurité Routière Internationale, et vous êtes aussi, Awassar, vice-présidente de l'Alliance francophone pour la sécurité routière.
8 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Bonjour les voisines, bonjour les voisins.
Oui, bonjour.
Nous sommes là, nous sommes ensemble.
Oui, allô ?
8 milliards de voisins. On est ensemble.
Mais tout de suite, écoutez le témoignage d'un auditeur. Il a 38 ans et il a posté ce message sur notre compte WhatsApp, le 33 7 64 45 51 41.
Bonjour 8 milliards de voisins. Moi, c'est Abaloloko, paterne depuis Lomé au Togo. Franchement, les dangers de la route sont réels et quotidiens. Sortir le matin et rentrer le soir sain, sauf avec son engin, est un parcours de combattant. Car en réalité, on rencontre tous les jours des accidents de circulation. La faute beaucoup plus au non-respect du code. En ce qui me concerne, je roule à moto et il arrive que je roule excessivement vite, que je néglige le port du casque, que je fasse ou que je reçoive des appels, que je consulte mon WhatsApp même. Tout ceci parce qu'on se sent immortel sur les routes alors que la réalité est tout autre. La route tue. Ces comportements sont punis. Et parfois, lorsque tu te fais choper, c'est des amendes. Heureusement qu'on arrive à négocier ces amendes des fois. Sinon, c'est la fou rire assurée. Merci et bonne émission à vous.
Alors, avant de vous laisser réagir, voici le témoignage aussi d'une élève d'école primaire à Yaoundé. Elle raconte comment elle vit la route quand elle croise un conducteur comme paterne, alors que les accidents représentent la première cause de décès chez les 5-29 ans en Afrique.
Moi, quand j'étais au CE1, je courais avec mon camarade. Et puis, il y avait une moto qui passait, donc je n'avais pas vu la moto. Et la moto non plus. Le chauffeur, le conducteur, il était en train d'écouter une musique. Il ne m'a pas vu passer. Il filait, j'étais en train de courir. La moto d'homme m'a renversée et je me suis retrouvée au sol. Et ça m'a fait beaucoup mal. J'avais peur et je croyais que bon, c'était ma dernière fois de vivre. Et quand je me rappelle de ça, ça me fait avoir des frissons.
Bonjour Jean-Todd.
Bonjour.
Vous êtes envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière. Vous êtes au cœur de cette conférence sous l'égide des autorités marocaines. Vous êtes au cœur des négociations aussi. Merci d'être avec nous en ce début d'émission. Que vous inspirent ces deux témoignages par rapport aux enjeux de la conférence de Marrakech?
Ce sont des témoignages qui sont des réalités. C'est ce qui explique d'ailleurs que nous soyons à Marrakech, 4e conférence interministérielle, pour parler de sécurité routière et puis Vous avez peut-être vu un livre que je viens de présenter justement à Marrakech qui s'appelle « Une pandémie endormie sur les routes ». L'idée, c'est de faire en sorte que tout ce que nous venons d'entendre cesse.
Justement, quel est votre objectif en tant qu'envoyé spécial des Nations Unies ?
Ça permet, pendant 3 jours, de parler de ce dont on ne parle pas suffisamment. La route, les victimes, les morts, les blessés. On a la recette. Éducation, application des lois, qualité des véhicules, des routes et qualité des secours. Et des choses extrêmement simples que vous avez dû voir d'ailleurs à travers tous les panneaux d'affichage, aussi bien à Marrakech que dans les salles des conférences, et puis qui vont être développés dans 1000 villes et 80 pays avec une campagne Nations Unies JCDECO. Eh bien, nous avons 16 célébrités, nous avons tous les médaillés d'or olympiques et paralympiques qui participent à cette campagne, finalement, qui influencent sur des choses simples, à savoir, je mets ma ceinture de sécurité à l'avant, à l'arrière, je mets un casque, mais ça ne suffit pas de mettre un casque, il faut encore que ce soit un casque de bonne qualité, aux normes reconnues des Nations Unies, je ne conduis pas sous influence, je ne dépasse pas la vitesse et je n'utilise pas mon téléphone. Voilà les messages. Et je respecte les usagers de la route. Si on est capable de réaliser tous ces souhaits, eh bien, nous allons répondre aux problèmes qui étaient soulevés par les deux auditeurs précédemment.
Les deux auditeurs, il se trouve qu'ils sont en Afrique subsaharienne. Le nombre de tués augmente régulièrement depuis 15 ans, contrairement au reste du monde. L'Afrique est un continent où les défis de la route sont continuels. Est-ce qu'il y a une fatalité dans ces défis de la route ? Comment vous voyez la spécificité du continent africain et que donnent vos discussions bilatérales avec les ministres africains ?
Alors déjà, je ne me limiterai pas à l'Afrique, dans la mesure où il y a tout ce qui se passe en Asie, en Amérique latine, dans les pays du Moyen-Orient. C'est vrai que l'Afrique, par rapport au nombre de véhicules et au nombre de victimes, arrive en tête. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il y a beaucoup de ministres, de représentants du gouvernement africain, de délégations, qui sont venus pour parler de sécurité routière et, je l'espère de tout mon cœur, pour s'engager à ce que les choses changent. Je reviens sur la décision du ministre des Transports hier. C'est le ministre marocain. Faire en sorte que lorsqu'on achète un deux roues, eh bien, on ne pourra pas l'acheter sans avoir de casque. Et pour moi, c'est une décision historique. Et l'idée, c'est que cette décision soit reprise par un maximum de gouvernements. Et donc, il y a beaucoup de décisions qui doivent être prises, qui peuvent être prises. On parlait d'éducation, parler de sécurité routière à l'école. On ne le fait pas.
C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas, d'ici la fin de la semaine. Merci, Jean Todt, d'être venu ouvrir cette émission. Je rappelle que vous êtes envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière. Et on vous laisse retourner dans les négociations, les salles plénières, avec tous les acteurs de la sécurité routière. Merci à vous, Jean Todt.
Merci beaucoup.
8 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Cette situation, Binta Sako, Etienne Kouakou, Awassar, vous la connaissez bien. Hein, c'est la route qui tue énormément sur le continent africain. Comment vous réagissez, Binta Sako de l'OMS ?
On a le plus haut taux de mortalité et ça, c'est depuis plus de 10 ans que c'est toujours la même histoire. On sait que la route tue en Afrique et que les deux intervenants sont des jeunes. Et c'est souvent les jeunes que ça affecte dans les années les plus productives. Donc, c'est les jeunes adultes, les adolescents. Et la situation ne change pas. Et c'est vraiment ça le drame, d'où l'importance de ces conférences-là et de rassembler tous les acteurs, incluant les ONG, le ministère des Transports, de la Santé, enfin, qu'on vienne vraiment avec une solution commune. Là, je vois que les facteurs de risque comme la vitesse ont été mentionnés, le port du casque, tous ces éléments-là.
Le téléphone portable,
toutes ces failles viennent en fait creuser les tombes de jeunes et on n'arrive pas jusqu'à présent à renverser la vapeur sur le continent malheureusement.
Etienne Kouakou, quand on voit sur le continent africain les bus privés, alors pas spécialement dans votre pays, la Côte d'Ivoire, hein, mais sur des trajets longs avec des slogans comme « Moi je vais le plus vite », on voit bien que la priorité c'est la vitesse et pas du tout la sécurité. Comment changer les mentalités et changer aussi de logiciel par rapport à cette fatalité vécue comme telle pour les accidents de la route ?
Je crois qu'il y a un grand travail de sensibilisation à faire, des formations aussi, la méconnaissance du code de la route, le non-respect des limitations des vitesses. Et ce que vous venez de dire est édifiant. Malheureusement, quand on pratique la vitesse, on n'arrive pas du tout. Et c'est le grand danger auquel nous sommes confrontés et la grande lutte que nous menons dans nos différents États. Et je crois que la rencontre de Marrakech est une occasion pour nous interpeller tous et pour nous faire prendre conscience pour que, à l'échelle mondiale, mais à l'échelle africaine surtout, que nous prenions conscience donc de ces états de fait, pour que, à l'horizon 2030, comme nous le recommandent donc les objectifs de l'ODD, que nous soyons prêts pour réduire de 50% les accidents. Et je crois que les deux intervenants, que ce soit le monsieur là qui est du Bénin, ou la jeune fille qui a été victime d'un accident par imprudence, en même temps et du piéton et du motocycliste à la fois. Alors quand les deux imprudences se rencontrent, il n'y a que la fatalité. Ça laisse une séquelle à la petite parce qu'elle dit désormais la peur. Et c'est cette peur qu'il faut lui enlever à travers la formation, à travers l'éducation.
Ouais. Et un tiers des personnes tuées sur les routes sont des piétons, hein, contre 21% pour la moyenne mondiale. Il y a donc un vrai travail et un vrai défi pour le continent africain à Ouassar.
Ce défi, quand j'entends une petite fille qui dit qu'elle pense que c'était sa dernière fois de vivre, c'est ce genre de choses qui me fait agir. C'est ça qui nourrit ma passion pour la sécurité routière, pour sauver ces personnes vulnérables dont vous parlez. Parce que quand j'entends Paterne juste avant, c'est pas une victime lui, il dit qu'il sait qu'il roule à tombeau ouvert, il sait qu'il dépasse les limitations de vitesse, il sait qu'il ne porte pas son casque, et sa seule peur c'est de se faire attraper. Alors que sa peur ça devrait être que lui puisse perdre la vie, puisse être blessé, invalide lourdement, et qu'il rende invalide d'autres personnes. Donc c'est ça notre combat, et c'est ça le combat de l'association donc Laser, de l'Alliance francophone. On est heureux d'être ici aujourd'hui avec les institutions, avec tout ce qui est régional, avec nos institutions nationales également, qui travaillent comme ils peuvent, mais également pour leur montrer ce que nous on fait sur le terrain. L'éducation routière est capitale. Là, on a donné des cours d'éducation routière. Ils savent qu'il ne faut pas courir pour traverser. Il faut être attentif pour traverser. Mais également, on travaille avec ces jeunes de la route, ces jeunes qui sont à deux roues. Donc, c'est un moyen commercial également. Il faut prendre en compte l'aspect économique. Ils n'ont pas de travail. Donc, ils utilisent le deux roues. C'est leur moyen de subsistance. Mais on les sensibilise. On essaie de faire des programmes casques. On leur dit pourquoi l'importance du casque. Beaucoup ne le savent pas.
Alors, quand on dit qu'il y a un problème économique, il y a aussi un coût économique, celui des morts sur la route, Binta Sakho.
Tout à fait. Oui, oui.
Quand un chef de famille meurt, par exemple, c'est toute la famille qui est impactée.
Tous les coûts, les coûts directs. C'est les coûts directs, mais aussi c'est les coûts indirects à long terme de vivre avec un handicap ou qu'il n'y ait plus personne pour nourrir la famille, que les enfants ne puissent pas aller à l'école. Les conséquences sont vraiment à court, moyen et long terme dans la plupart des cas.
Qu'en est-il des données ? Aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est qu'elles sont insuffisantes, imprécises concernant le continent africain, les différents États africains. Mais surtout, tout le monde n'est pas d'accord sur les évaluations de l'OMS quant à ces fameuses routes les plus meurtrières du monde sur le continent subsaharien.
Effectivement, c'est un sujet à controverse.
De discorde, oui.
De discorde, oui. Alors nous, à l'OMS, on recueille les données, autant les données des pays, donc les données rapportées. Mais pour la plupart des pays, on sait que les systèmes d'enregistrement des données sont incomplets. Ils utilisent les données de police, par exemple. La police va avoir ses propres données, ses propres chiffres. La santé va avoir ses propres chiffres. Et d'autres secteurs aussi peuvent recueillir des chiffres. Donc très peu de pays vont combiner ces données-là pour avoir des données beaucoup plus complètes. Et l'OMS a mis en place un modèle mathématique pour venir corriger en utilisant justement les enregistrements d'état civil et autres.
Alors justement, demandons au directeur de la sécurité routière en Côte d'Ivoire, Étienne Kouakou, pour vous, combien de morts par an en Côte d'Ivoire ? En moyenne, ça change d'une année sur l'autre. On est autour de quoi ?
En tout cas, on est autour des 1000 morts par an.
Oui.
Maintenant, concernant donc la qualité des données, la collecte des données, souvent il n'y a pas l'exhaustivité de la collecte de toutes les données. Mmh. Parce qu'il y a des accidents qui se passent en zone hors présence de la police ou de la gendarmerie et qui, quelquefois, ne sont pas donc pris en compte. Mmh. Nous sommes conscients de cette exhaustivité et donc, en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de réfléchir donc à atteindre toutes les sources d'informations en ajoutant, bien sûr, des sources communautaires qui pourraient donc être validées par les principes que nous sommes en train d'adopter.
Donc, quand la Côte d'Ivoire dit on est autour de 1000 morts par an, l'OMS dit... C'est beaucoup plus ?
Oui. Selon nos estimations, c'est beaucoup plus haut. 3 fois plus en moyenne quand on compare les données rapportées et les données estimées.
Donc en moyenne, là, vous diriez, c'est plutôt 3000 morts par an en Côte d'Ivoire. Ça fait quand même un énorme écart.
Oui, je pense qu'il y a quand même une différence entre ce qui est réellement enregistré et la réalité du terrain. Et en général, on dit entre 50, l'OMS considère que c'est 3 fois plus. On peut considérer que c'est presque 50% de plus, parce qu'il y a ce qui est rapporté. Monsieur Kouakou a parlé d'effectivité et d'exhaustivité. Donc effectivement, tout n'est pas remonté. Ce sont les morts constatées officiellement qui sont déclarées.
Je voudrais aussi qu'on parle de la perception de la violence routière pour les populations, pour les citoyens, les usagers de la route, hein, qu'ils soient piétons, motocyclistes, automobilistes. Prenons un exemple, la route Douala-Yaoundé, elle est souvent citée par nos auditeurs comme une route où l'on s'en remet à Dieu, finalement. Est-ce que les pays savent identifier les corridors, les routes particulièrement dangereuses ? Est-ce qu'il y a un écart, là aussi, entre cette perception d'une route très dangereuse et la réalité ? Binta Sakho.
Oui, dans le cadre de cet axe, je pense que c'est bien connu de la part des populations, mais aussi des autorités. Et beaucoup d'organisations internationales travaillent sur le renforcement de la sécurité sur ces corridors-là. Alors, il y a le corridor connu en Afrique de centrale et de l'Ouest, mais il y a aussi d'autres au niveau de l'Afrique de l'Est qui sont connus accidentogènes. Par exemple, en Ouganda, entre l'Ouganda et la Tanzanie, il me semble bien, comme au Cameroun, on en parle, on le sait et on met en place des politiques, surtout au niveau des infrastructures et de la réponse au moment de l'accident.
Ah. Étienne Kouakou, en Côte d'Ivoire, il y a une route qui est particulièrement présente dans la perception de la dangerosité.
Alors, vous avez l'autoroute du Nord, c'est-à-dire l'axe qui va d'Abidjan à Ouangolo. Vous avez, en descendant vers le sud jusqu'à Noé, et puis vous avez, à partir de Yamoussoukro, vous allez vers l'ouest d'Aloa, et à partir d'Abidjan, vous allez vers l'est, le corridor est jusqu'à Bangourou, qui sont des axes que nous avons identifiés où se produisent beaucoup d'accidents. Et Dieu merci, depuis la mise en œuvre, nous connaissons une baisse. Vous allez constater que dans le dernier semestre de 2024, il y a eu une recrudescence des accidents. Mais nous avons identifié les sources. Les sources sont liées beaucoup plus à l'état des véhicules qu'à au non-respect du code de la route. Et donc, nous sommes en train de mettre l'accent sur l'entretien du véhicule. Et comme nous avons instauré une semaine nationale de sécurité routière, où nous faisons une campagne de sensibilisation, nous axons nos efforts de sensibilisation sur l'état mécanique du véhicule, le bon état mécanique du véhicule.
Il y a aussi les accidents les plus médiatisés, je pense à certains accidents, notamment au Sénégal, hein, qui se passent sur des routes où on roule vite. Des gros accidents de bus, de camions qui roulent trop vite, trop chargés aussi, que ce soit en passagers, en marchandises. À Ouassar, est-ce que ces accidents spectaculaires constituent en réalité l'essentiel de la mortalité sur les routes, ou est-ce que finalement on projette beaucoup de fantasmes sur ces accidents, mais la réalité, tout ce qui fait grimper les chiffres tous les jours, c'est pas forcément ces accidents les plus spectaculaires?
Alors, on a eu des gros accidents très spectaculaires ces dernières années.
On pense à Kaffrine, bien sûr.
Voilà, et c'est vrai que c'est médiatiquement, c'est impressionnant, et beaucoup d'émotions. Et heureusement, il y a des plateaux quand même de prise en charge maintenant post-accident qui ont permis de sauver, de limiter les dégâts, parce que ça aurait été beaucoup plus important. Cet effort est fait du côté de la santé, et il y a un effort qui est fait également au niveau ministère, transport, infrastructure, pour l'étude et l'analyse des accidents. Parce que je pense qu'ils ont mis en place entre l'agence et des départements qui sont en charge de l'analyse des accidents. Parce qu'il y a effectivement beaucoup plus d'accidents que ceux qui sont spectaculaires, avec peut-être un, parfois deux morts, mais quand on comptabilise 2 morts de plus, 10 morts de plus, c'est déjà 1 mort de trop. C'est une vie humaine qui coûte aux familles, qui coûte à la nation. Et ça, je ne parle même pas des coûts économiques, je parle du coût affectif, je parle du coût émotionnel, mais aussi de l'invalidité que ça crée derrière.
Oui, rappelons que les piétons, plus les motos, c'est déjà 65% des accidents de la route sur le continent subsaharien.
Et les très jeunes, 13%. 13% chez nous, des enfants qui sont très jeunes. Et c'est absolument inacceptable. Donc, c'est la remontée de ces accidents est capitale, vraiment, avec les données qui sont capitales pour pouvoir prendre les mesures adéquates.
Vous restez avec nous, Binta Sako, Étienne Kouakou, Awassar. Nous allons bien sûr parler des sanctions, de l'éducation à la sécurité routière, entre la carotte et le bâton, quel est le juste milieu ? Quelles sont aussi les études d'impact qui montrent les solutions les plus efficaces pour diminuer la mortalité sur les routes sur le continent subsaharien. Romain Dubrac, le réalisateur de l'émission, vous a concocté un super programme musical, Les Voisins, Les Voisines, sous influence marocaine, puisque nous sommes à Marrakech et c'est le pays qui accueille cette conférence internationale de la sécurité routière. Manal, chez 8 milliards de voisins.
توصلي بابي يا فازي طاي طاي جريتك ما هي سالكة ما هي سالكة غندوقي عذابي ديالي وحدي أنا حس هذا غادي سوفري خليت كل شي لي هنا دمي وصحابي تي مطالي ضيعي أنا مهبولة باغا تفوتني يا فين انتي وفين
de voisins sur RFI. Notre émission est enregistrée à Marrakech, au Maroc. Cette semaine, c'est la 4e conférence mondiale pour la sécurité routière, une grande réunion qui réunit des ministres des transports, des chargés de la sécurité routière et tous les acteurs, finalement, de la sécurité sur les routes, sachant que les routes du continent subsaharien sont les plus mortelles du monde et que les progrès sont très difficiles, voire la mortalité augmente, en fait, depuis une dizaine d'années, du fait aussi de l'augmentation des motos et des automobiles et des bus. Nous en discutons avec Binta Sako, représentante du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, Étienne Kouakou, directeur général de l'Office de sécurité routière de Côte d'Ivoire, Awassar, présidente de l'ONG sénégalaise LASER, l'Action sécurité routière internationale et vice-présidente de l'Alliance francophone pour la sécurité. Commençons par parler des sanctions et des conduites à risque, parce que c'est aussi ce qui fait le plus débat. Il y a dans l'ensemble des pays une tendance au renforcement des lois. Des pays comme le Sénégal, le Ghana et beaucoup d'autres pays ont renforcé les lois sur la conduite, par exemple en état d'ivresse, les excès de vitesse. La vraie question, c'est
est-ce que ces lois sont appliquées ou est-ce que c'est d'abord encore le manque de lois pour vous, Binta Sacco ?
De la collecte des données qu'on a fait récemment, les lois minimum sont là. Donc les pays vont avoir une loi, mais elles ne vont pas forcément avoir les critères qu'il faut, les meilleures pratiques qu'il faut par rapport à la loi. Et surtout, là où on voit une carence, c'est au niveau de l'application de cette loi-là, ou des mécanismes en tout cas qui permettraient une application optimale de la loi. Ça, c'est vraiment un problème, une carence, je dirais, dans la plupart des pays.
Ça demande de l'infrastructure, de la présence policière.
Exactement, ça demande des policiers sur place, ça demande de l'innovation quelquefois, qui pourrait pallier. Et aussi, comme disait Awassar tout à l'heure, comme les motos, le casque, c'est un moyen de subsistance. Alors, pour un motocycliste qui roule à grande vitesse, c'est souvent pour avoir plus de clients dans la journée et arrondir ses fins de mois.
Donc, mais le casque ?
Le casque coûte cher. On n'a pas forcément les meilleurs standards dans la plupart des pays. Donc tout ça, ce sont des obstacles en fait à un peu à l'application de ces lois-là de façon optimale.
Et vous l'avez constaté les uns les autres, même à Marrakech, dans une ville importante, ultra développée, vous l'avez vu, les motocyclistes roulent pour la plupart, certes avec un casque, mais qui n'a pas du tout l'air d'être un casque homologué.
Exactement.
Il y a cette question de standard sur laquelle il faut vraiment que les États africains se penchent. Beaucoup ne mettent pas de casque, mais ceux qui mettent des casques, les casques que certains ne les sauvent pas. Il y a des standards minimums pour que le casque puisse empêcher les traumatismes crâniens qui vont provenir d'une chute.
Alors,
en fait,
revenons à la question des sanctions, que ce soit pour les excès de vitesse, pour le non-port de ceinture de sécurité dans les véhicules, pour le non-port du casque ou casque non homologué. Étienne Kouakou, en Côte d'Ivoire, vous avez piloté le plan de stratégie nationale de sécurité routière, donc 2021-2025, sous l'égide du ministre des Transports Amadou Koné. Quelles actions principales et puis surtout pour quels résultats aujourd'hui ? Parce que ce n'est pas si simple.
On a adopté ce plan quinquennal pour nous permettre à mi-chemin, donc par rapport à l'objectif de 2030, de faire des corrections éventuellement. Et donc nous avons une réglementation sur laquelle s'appuient toutes les actions que nous menons. Une réglementation aussi bien pour la formation que pour le contrôle sur les routes. Effectivement, les résultats, il est intéressant parce que nous connaissons une baisse au niveau des accidents, en tout cas selon nos statistiques.
En 2021-2023, ça a nettement baissé.
Voilà, ça a vraiment
moins
baissé.
Moins 10% du nombre de morts.
Tout à fait.
Et puis remonter en 2024.
Remonter en 2024, non, la recrudescence a été faite par, constatée par des accidents graves, isolés. Le dernier semestre de l'année 2024, nous avons enregistré 4-5 accidents qui étaient spectaculaires. 29 tués pour le premier, quelquefois suivis d'incendies. Les raisons de ces accidents, les causes essentielles, c'était le manque d'entretien des véhicules. Effectivement, pour revenir à la question du casque, nous l'avons constaté aussi que chez nous, il y a au moins 50% des usagers des motos qui ne portent pas le casque. Nous avons fait une étude expérimentale au niveau des Boaké, qui pour nous est une zone qui représente vraiment les usagers des deux et trois roues. Et ça a été prouvé, donc, cette étude, qu'il y a 40% des personnes qui ont été admises pour les soins ou qui ont été victimes d'accidents qui ne portent pas le casque. C'est pourquoi, justement, dans le cadre donc de cette rencontre de Marrakech, la Côte d'Ivoire a pris l'engagement de faire en sorte que nous passions à 80%, 90% des usagers de la route qui portent le casque aux normes des Nations Unies.
Comment vous comptez faire ? Alors, plus de sanctions ?
Non, pas plus de sanctions, des sensibilisations et puis un accompagnement, c'est-à-dire dans l'acquisition. Aujourd'hui, on nous a dit le casque aux normes des Nations Unies, c'était 30 euros. Aujourd'hui, on nous a parlé de 20 euros. C'est déjà quelque chose de positif, ça. Maintenant, les
vous
gouvernants...
Vous allez distribuer des casques à tous les motocyclistes ?
Ah non, pas à tous. C'est un accompagnement qui va se faire peut-être par une réduction, une prise en charge d'une partie pour que ce qui est à payer par l'usager puisse l'être de façon...
Voilà. Vous ne craignez pas que le casque soit illico revendu ?
Ah non. Il y a une idée qui a été dite au cours de cette convention que déjà à Abidjan nous avons, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons lancé, c'est de faire en sorte que chaque moto qu'on paye soit associée à deux casques. Et ça, nous l'avons fait avec ce que nous appelons la plateforme des assembleurs
quand
de motos.
Quand on achète une moto neuve.
Voilà.
Quand vous achetez une moto. Qu'en est-il pour les motos d'occasion ?
Alors, la moto d'occasion, comme c'est une moto d'occasion que vous achetez, que vous allez faire des démarches administratives pour l'acquérir à votre nom, évidemment, on va exiger que le casque soit présenté.
Si tant est qu'il y ait une plaque d'immatriculation, mais en réalité, quel est le pourcentage des motos qui n'ont toujours pas de plaque d'immatriculation?
Alors là, il y en a beaucoup, parce que sur à peu près un parc évalué à 4 millions de motos qui sont en circulation, vous avez 180 000, autour de 200 000 qui sont connus dans nos fichiers, c'est-à-dire donc qui sont immatriculés. Mais il y a des actions qui sont en train d'être menées pour ramener la majorité de ces usagers-là à s'immatriculer. Et c'est là la question du contrôle routier, de la sanction. Parce que lorsqu'on prend un texte pour dire que tout véhicule à moteur qui doit être sur la voie routière ouverte à la circulation publique doit être immatriculé, la conséquence c'est que quand vous n'êtes pas immatriculé, vous subissez la rigueur de la loi.
Quand il y a un contrôle routier, quand un policier arrête soit un motocycliste, soit un automobiliste, que se passe-t-il ? Très honnêtement.
Alors, ce qui doit se passer, je dis d'abord ce qui doit se passer, ce qui est le principe, c'est qu'il y a une verbalisation qui est faite. Voilà, et puis maintenant, l'intéressé va payer l'amende qu'il faut payer. Et puis, il restitue. Mais le premier auditeur a dit tout à l'heure, il négocie. Voilà, la négociation.
Tous les auditeurs nous le disent dans tous les pays du continent.
La négociation fait partie des rapports entre les humains. Mais face au danger des accidents de la circulation, face à ce que ça coûte aussi bien aux familles qu'à l'État, je pense qu'il y a des domaines où il faut éviter la négociation.
Est-ce que pour vous, la négociation ou la corruption des forces de l'ordre est un sujet central dans les campagnes de sécurité routière, Étienne Kouakou?
Alors, nous évitons les présomptions, les préjugés. On part sur le principe que chacun fait correctement son travail. Et sur cette base, sur ce principe, nous édictons donc des comportements. Maintenant, s'il se trouve qu'en dehors de ce qui est le principe, il y a des arrangements qui sont faits, nous le condamnons et nous faisons une sensibilisation dans tous les sens. Et chez nous, il existe des institutions chargées de la lutte contre la corruption et de la bonne gouvernance. Et nous pensons que chacun, à son niveau, fera le travail qu'il y a à faire pour que les choses se passent correctement.
Binta Sacco de l'OMS.
Par rapport à la police, on parle tout le temps de sanctions, d'application de la loi, mais ils ont aussi un rôle d'éducateur. Donc je pense qu'il faut combiner ces deux-là. Lorsqu'on arrête une personne dans la négociation, peut-être plutôt que de faire baisser le coût de l'amende, on pourrait prendre cette opportunité pour rappeler à ces automobilistes ou ces motocyclistes que leur comportement peut tuer quelqu'un.
Parce que je pense que les policiers ne sont pas perçus du tout de cette façon-là comme des éducateurs. Ils sont perçus comme ceux qui veulent une rétribution.
Exactement, mais il faut changer cela. Et je pense que l'éducation, quand on parle de formation, de sensibilisation, on commence par les policiers. Et qu'on leur donne cette double casquette de mise en application de la loi et de sanctions, mais aussi d'éducateurs.
Alors, il y a la vidéo-verbalisation qui progresse sur le continent africain. À Abidjan, par exemple, Étienne Kouakou, ça a fait baisser la vitesse en ville, le fait qu'un automobiliste puisse se faire flasher par des vidéos. Et là, effectivement, il n'y a plus de négociation avec le policier.
Tout à fait. Tout à fait.
Il reçoit ensuite son avis à payer, son amende à payer.
Absolument. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que ce système de vidéo-verbalisation soit sur les grands axes. Les axes les plus structurants où il y a beaucoup plus de circulation routière. Ça permettrait, effectivement, d'éviter ces négociations dont on parle.
Ça a fait baisser la vitesse de combien?
Ça a fait baisser la vitesse en agglomération. On est passé de 70, c'est une vitesse moyenne, de 70. Nous en sommes aujourd'hui à 59. Et c'est en train de baisser.
60 km heure, voilà, disons. Les recommandations de l'OMS, c'est combien en ville?
Sur 50.
50.
50.
50. Alors, c'est en train de baisser. Je dis que nous sommes à 59. C'est en train de baisser. Et nous allons, dans le cadre des réformes qui sont en cours, faire en sorte que la vitesse, de façon générale en agglomération, soit limitée à 50 km/h, comme le recommande l'OMS et toutes les institutions des Nations Unies.
Vous avez aussi instauré un permis à points. C'est tout récent, depuis mars 2023.
Depuis mars 2023.
Là aussi, c'est la peur du bâton, de la chicotte. On y reviendra peut-être. Mais à Ouassar, vous avez, au Sénégal, fait campagne pour la limitation à 30 km/h devant toutes les écoles du Sénégal. C'était inclus dans la loi de transport 2021. Est-ce que cette limitation est effective aujourd'hui aux abords des écoles au Sénégal?
Alors merci vraiment, ça c'est un sujet qui me passionne. J'ai passé 3 années à faire ce plaidoyer-là et à m'assurer que vraiment ce serait dans la dernière loi de transport. Et c'est réellement effectif, voté par l'Assemblée, accepté par le gouvernement. Maintenant, l'application effective, le décret est en cours. Le décret
est en cours d'application. Pourquoi il est toujours en cours, toujours pas signé depuis 2021?
Ce ne sera pas ma partie, mais l'application.
Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que vous demandez en tant qu'ONG?
Juste que ce décret sorte. Mais en fait, ce décret, ce n'est pas un décret simple. C'est un décret qui accompagne les autres parties, pardon, de la loi. Parce que c'est dans la loi des transports que c'est 30 km/h devant, pas seulement les écoles, mais également les lieux de vie. Maintenant, on n'attend pas forcément que le décret sorte, puisque dans les aménagements, dans notre programme Safe Routes to School, que nous déroulons, et sur lequel nous sommes en partenariat avec le gouvernement, le ministère des Infrastructures, mais également l'agence nationale dont vous venez de parler, nous mettons en place des dispositifs en termes d'infrastructures, avec bien sûr nos partenaires privés, des panneaux 30, puisque la loi existe. Donc on peut s'appuyer sur une base réglementaire. On met également des dispositifs pour casser la vitesse, parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre un panneau 30 qui va faire arrêter celui qui vient à 60 ou à 70.
Des dodanes ?
Des dodanes, des ralentisseurs, mais aux normes. Je vous vois sourire, ce sont des ralentisseurs aux normes, mais également des couloirs pour que les enfants puissent avoir des voies dédiées pour circuler. Parce qu'il faut vraiment séparer les différents usagers de la route pour éviter cette mitigation qui amène beaucoup les conflits.
Mmh. Alors c'est vrai que les infrastructures, c'est capital aussi hein, pour réduire la mortalité sur la route.
C'est
et
capital.
Ça sera l'objet de notre émission demain. On va parler de la qualité des routes et de tout ce qu'on peut faire pour améliorer la sécurité dans les infrastructures. Parlons maintenant de formation et de prévention. Vous disiez tout à l'heure que le policier ne doit pas être seulement l'homme ou la femme de la sanction, mais ça doit être aussi un éducateur. À Ouassar, vous avez formé beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves, 150 000 hein, je crois.
150 000
au Sénégal, bon, sur à peu près 4 millions d'élèves dans le pays.
On touche également des enfants qui sont dans les centres de vacances, les enfants défavorisés dans certains quartiers qui sont regroupés en associations. Donc ça touche quand même une population un peu plus large que juste les établissements scolaires. Et les PMR également, avec l'association des handicapés du Sénégal avec qui on travaille. Alors on a c'est de l'éducation routière. Ce sont des modules, comment traverser, comment reconnaître les panneaux de signalisation, comment prendre en charge son camarade pour des petits gestes de premier secours qui peuvent le sauver, comment circuler quand on est en groupe, quand on est un groupe d'élèves qui arrive. Ce sont des modules vraiment très précis, avec un petit module de santé également, qu'on leur dispense. Donc depuis 2012, l'association, c'est vrai que j'en parle un peu avec passion, s'occupe de ces enfants-là. Toujours en partenariat, parce qu'il faut savoir que nous ne travaillons pas de manière isolée. Toutes nos actions sont reversées pour le pays, mais dans un cadre où nous informons le ministère des Infrastructures, et nous sommes en partenariat d'ailleurs avec les directions du ministère et avec l'Agence nationale maintenant de sécurité routière.
Donc ça, c'est pour la sensibilisation pour les enfants qui sont à l'école. Parlons du permis de conduire. Quand on fait des émissions sur le permis de conduire, pratiquement tous nos auditeurs nous disent « mais le permis de conduire sur le continent subsaharien, il s'achète ». Binta Sako.
Ben, ça fait certainement partie des problèmes et des solutions. Avoir un conducteur qui est apte à prendre la route, qui connaît les codes et capable d'avoir un jugement correct, qui anticipe les accidents, c'est essentiel pour la prévention. Donc, on recommande au pays d'avoir un système en place. Bien sûr, avoir des auto-écoles, mais aussi avoir des permis de novice qui donnent une certaine expérience et aussi de mettre en place des permis à points. Ce sont des mesures en fait efficaces. Donc il y a beaucoup de recommandations comme ça au niveau de tous les facteurs de risque qui, lorsqu'appliqués, pour sûr, vont diminuer le nombre d'accidents.
Le permis à points, c'est donc le risque aussi, quand on commet trop d'infractions, de perdre son permis de conduire. Étienne Kouakou, déjà en Côte d'Ivoire aujourd'hui, est-ce que pour obtenir son permis de conduire, on est obligé de passer par une auto-école ou toujours pas ?
La réglementation impose le passage obligatoire dans une auto-école. Et toutes nos auto-écoles qui sont agréées existent sur une plateforme, chacune ayant un code et donc auquel le candidat est attaché par rapport donc à l'auto-école. Et donc tout changement, même en cours de formation, nécessite donc qu'il y ait une entente entre les deux auto-écoles qui reçoivent le candidat. Donc c'est forcément par une auto-école qu'il faut passer. Et il y a des examens qui sont programmés, suivis par l'administration. Voilà. Et aujourd'hui, il est impossible pour un candidat de ne pas s'inscrire dans une auto-école et puis prétendre passer un examen de conduite. Parce que l'inscription se fait sur la base d'empreintes biométriques.
Donc vous nous certifiez qu'aujourd'hui, on ne peut pas obtenir son permis de conduire en Côte d'Ivoire si on n'est pas passé par une auto-école, si on n'a pas suivi une formation à la conduite.
De formation. Et nous avons un programme de formation qui a été mis en place depuis 2019, voilà, et qui comporte des modules qu'il faut absolument valider avant de passer à d'autres étapes. Donc le principe, il est là. Et c'est pourquoi justement, de temps en temps, nous faisons des contrôles dans les auto-écoles pour voir l'effectivité du suivi de ce programme de formation et donc de la pédagogie également. Et quand tout cela est bien appliqué, au bout, on a quelqu'un qui est bien formé. Donc on est sûr que pour passer l'examen, l'épreuve théorique, là aussi, ça se fait l'ouverture du dossier par empreinte digitale, parce que personne d'autre ne pourrait donc se présenter à la place d'un candidat.
Binta Sakho, quand on regarde les politiques de sécurité routière sur le continent africain, qui ne sont absolument pas une priorité des États, il faut le reconnaître, comment se situe l'équilibre entre les sanctions et la prévention? Qu'est-ce qui porte le plus ses fruits? Qu'est-ce qui fait bouger les chiffres? Qu'est-ce qui fait décrocher la mortalité sur les routes aujourd'hui?
Alors, j'ai envie de dire que c'est la combinaison des deux, forcément. Si on ne fait que la prévention, l'éducation, en parlant de prévention, je parle d'éducation, là, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut une combinaison des deux. Et en fait, les êtres humains, on est ce qu'on est. On a besoin d'un environnement propice à l'action qu'on veut avoir.
Mais dès que la présence policière s'éloigne, la vitesse repart.
Oui, mais il y a d'autres mécanismes. Alors, il y a peut-être pas le policier, mais il y aura la caméra. Il y a aussi la qualité de la route. Et je pense qu'il faut aussi qu'on mette en place des systèmes qui nous permettent d'aller au-delà de l'utilisation de la voiture, peut-être. Peut-être que c'est des transports en commun sécurisés. Ce sont des rues piétonnes qui favorisent la marche ou le vélo plutôt que les voitures.
Tout le monde n'a pas la chance d'avoir le TER du Sénégal, à Dakar.
Non, tout le monde n'a pas cette chance-là.
TER et BRT.
Mais je pense qu'il y a...
rapide transit dans des couloirs sécurisés.
Oui. Tout à fait.
Oui. Il y a un changement qu'on voit en Afrique. On voit des pays qui sont en train de vraiment mettre en place des mesures sur tous les aspects. Parce qu'en fait, le problème, si on travaille juste sur la prévention, ben, il y a tous les autres éléments qui vont manquer. Il faut travailler aussi sur la sécurité des véhicules. Les véhicules sont très souvent la cause de ces accidents-là. Ou quelquefois, c'est l'infrastructure routière en elle-même.
Quels sont les pays qui...
L'éclairage.
Quels sont les pays qui sont sur... une bonne voie pour diminuer la mortalité sur les routes en Afrique?
Nous, sur le continent, on a enregistré les derniers 10 ans, jusqu'en 2021, donc on n'a pas les chiffres les plus récents. On a, sur le continent, 22 pays qui ont réussi à réduire. Alors, ils n'ont pas réduit à hauteur de 50% tel que c'est recommandé dans les ODD, mais il y a une diminution. Et je pense qu'on va voir de plus en plus cette tendance-là, surtout si des pays comme la Côte d'Ivoire prennent vraiment le leadership et essayent de mettre en place des mesures. Je pense que l'innovation aussi va nous aider à pallier un peu au manque de policiers sur les routes. Je pense que ce qui est important à comprendre, c'est qu'il faut une approche système et non une approche individuelle qui blâme l'individu pour son comportement.
Étienne Kouakou, en conclusion aujourd'hui, est-ce que vous avez les moyens de votre politique de sécurité routière?
Je voudrais partager la dernière intervention de Madame Sakho et rassurer que la Côte d'Ivoire ne va pas se dérober de ses responsabilités pour jouer donc le rôle de leadership au niveau de notre région par rapport à l'amélioration de la sécurité routière. Je profite pour dire qu'en marge des travaux que nous avons ici à Marrakech, j'ai échangé avec les délégations du Burkina et d'autres délégations des pays frères pour que ensemble nous puissions harmoniser nos actions de sensibilisation. Parce que nous avons relevé dans les derniers accidents qui se sont produits en Côte d'Ivoire l'implication des véhicules étrangers aussi, dont les normes d'entretien ne respectent pas toujours, ne sont pas comme ce que nous faisons en Côte d'Ivoire. Et donc, ce serait essentiel qu'ensemble, on travaille à l'amélioration donc de la qualité aussi bien de la formation que de l'entretien des véhicules. Et je crois qu'à ces prix-là, au niveau régional, on pourra atteindre des objectifs.
Awassar, en conclusion, qu'est-ce que vous demandez en tant qu'ONG, représentante de la société civile dans votre pays, au Sénégal?
Alors, je vais juste répondre à M. Kouakou. Le Sénégal va vous disputer le leadership, parce que les actions sont en train d'être mises en place. Beaucoup d'actions par le ministère des Infrastructures. Nous sommes en renfort derrière. Nous sommes les chevilles ouvrières qui sommes sur le terrain. Et on travaille beaucoup, beaucoup pour les enfants. Donc, c'est toujours un appel, cet appel que je lance pour les personnes vulnérables, pour qu'ils aient plus de mobilité, parce que c'est un droit. Ils ont un droit, ces enfants, ces jeunes ont droit à l'éducation, ont droit au travail, mais ont droit à la sécurité. Donc voilà, qu'on puisse nous aider un peu plus par rapport aux lois, par rapport aux standards, pour pouvoir accompagner ce travail de terrain que nous faisons tous les jours.
Binta Sakho, en tant que représentante de l'OMS qui travaillait sur la collecte des données, Vous réclamez plus de transparence, plus de cohésion aussi sur la collecte des données
plus
par les États.
Plus de collaboration avec les États et aussi peut-être de ne pas donner autant d'importance au nombre de morts, mais penser à toutes ces autres données autour de la sécurité routière qui pourraient vraiment aider les pays à prendre des actions. Et ça nous manque beaucoup, on se focalise énormément sur cette question de données estimées, données rapportées, et je pense qu'on manque l'essentiel, hein, qui est toutes ces données qui nous manquent et qui nous aurait permis de prendre des mesures adaptées au contexte donné.
Merci à vous tous. Binta Sakho, représentante du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Étienne Kouakou, directeur général de l'Office de sécurité routière de Côte d'Ivoire. Et merci à Wassar, présidente de l'ONG sénégalaise Laser et vice-présidente de l'Alliance francophone pour la sécurité routière. On se quitte avec le groupe franco-marocain Zar Electric en playlist ce mois-ci. Extrait de son nouvel album prévu pour ce printemps. Découvrez ses artistes et beaucoup d'autres d'ailleurs sur RFI Musique.
Le long vague autour, le plastique se tord. Les sons éclatés, ce sans effort. Des pensées s'échappent jusqu'à ce port. Le ciel et les nuages éclatent à bas bord. Soulevés par la brise, les soufflets, les rêves s'attirent. Au loin, la côte s'étire. Et le matin dans le vide, touche à vire. Quelle force m'a poussé, quel genou de monte enlacé. Quelle terre m'a caillé, je ne vois plus rien, c'est le noir.
Ah ouais, je t'ai dit, risque qui a moui. Oui, je suis fier.
Juliette Brault, Romain Dubrac à Marrakech, Delphine Cachin, Thibaut Matta à Paris. Nos émissions, vous le savez, sont disponibles en podcast sur l'appli RFI Pure Radio. Et demain, nous serons toujours à Marrakech pour la conférence mondiale ministérielle de la sécurité routière. Nous parlerons cette fois-ci des aménagements, des infrastructures, de la qualité des routes en Afrique. Quel est l'état des routes dans votre pays? Quels aménagements existent? On va parler des feux tricolores, des passages piétons, des panneaux de limitation de vitesse, des ronds-points, des glissières de sécurité. Bref, comment rendre les routes plus sûres pour les piétons, pour les deux roues et les automobilistes, les chauffeurs de camions, les chauffeurs de bus? Vos commentaires nous intéressent sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI. À demain.